Radio Capi.
Oh, Capi. Le journal Pierrot et la Mégie.
Et voici les titres de votre journal. Désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Une plénière est prévue ce lundi à l'Assemblée nationale afin de pouvoir adopter les quatre procès-verbaux de désignation par différentes composantes. Un processus qui ne fait pas l'unanimité. Coup d'envoi sur toute l'étendue du pays ce lundi, des épreuves hors session de l'examen d'État pour les filières de formation professionnelle. La cérémonie officielle a lieu au centre d'apprentissage CAPA dans la commune de Kadutu à Bukavu au sud Kivu. Une cérémonie présidée par la ministre de la formation professionnelle. Samba Kiabalamoni, gouverneur intérimaire de la Tanganyika, sera avec nous avant la fin de ce journal. Il évoque les différents points qui touchent à la vie de la province. Il aborde également la question de la gestion de la province après la déchéance de Zoé Kabila. Il est l'invité de votre journal. Bienvenue à toutes et à tous. Ce journal est mis en nom de par Jean-Noël Mokondo. Plénière, c'est lundi à l'Assemblée nationale. Il sera entre autres question d'adoption des quatre procès-verbaux suivant des désignations par différentes composantes des membres du prochain bureau de la CENI. L'adoption de ces procès-verbaux va intervenir dans un contexte où le consensus n'a pas été trouvé au niveau des confessions religieuses. Alors, Kiela Muka, le FCC Ensemble pour la République n'ont pas désigné leurs représentants à la CENI. Quelle est donc la suite légale de ces processus après le dépôt par certaines composantes des procès-verbaux de désignation de membres de la CENI à l'Assemblée nationale pour entérinement. Le député national Jacques Joly répond au micro de Michel Kifindangoy.
Il y a une commission paritaire majorité-opposition qui sera constituée par la plénière pour examiner les dossiers individuels et des personnes ainsi désignées au regard des conditions et critères prescrits, n'est-ce pas, par la loi. En ce qui concerne le président de la CENI, c'est l'article 24 qui précise qu'il est désigné par les confessions religieuses. Les confessions religieuses disposent d'une charte et c'est au regard de cette charte-là que peut-être la commission pourra se déterminer. Et en cas de non-intérimement de la désignation d'un ou de plusieurs membres de la CENI, le bureau de l'Assemblée nationale va demander à la composante concernée de désigner une autre personne. La commission paritaire pouvait auditionner ces personnes, les cas échéants, en présence des délégués de leur composante. Donc, nous espérons que tous ces mécanismes formels visent à amener les parties prenantes à trouver une démarche consensuelle.
Rendons-nous à Lubumbashi où Justicias Bell, une ONG de défense des droits de l'homme, considère comme l'acharnement les poursuites judiciaires initiées contre l'ancien administrateur de l'Agence nationale de renseignement, Kalev Mutondo. Elle l'a fait savoir dans un communiqué de presse publié le vendredi dernier. Pour son président, le magistrat devrait en outre rapporter le mandat d'amener et les avis des recherches émis contre Kalev Mutondo à cause des irrégularités et s'est déporté sous peine de commettre une faute disciplinaire. Cette ONG demande aussi à Kalev Mutondo d'accepter de comparaître en homme libre devant la justice congolaise. D'amples détails avec Timothée Mbouya, président de Justice Asbel, au micro de Jean Andou.
Justice Asbel estime qu'il y a justement une procédure qui a été déclenchée contre M. Kalev et cette procédure devrait répondre à un certain nombre de conditionnalités selon la loi, parmi lesquelles il y a l'autorisation préalable que devrait donner l'administrateur général de l'ANR. Mais également, Justice se rend compte que le magistrat instructeur a été récusé par la partie Kalev, malgré cela, il s'est pas déporté. Autre chose, nous demandons dans le communiqué que M. Kalev puisse se présenter en homme libre devant la justice pour pouvoir présenter ses moyens de droit. Mais nous demandons également que le magistrat qui a posé des actes irréguliers puisse les annuler ou le rapporter et que lui-même se déporte parce qu'il a été récusé. Nous faisons justement cette dénonciation au moment actuel parce que, après plusieurs investigations que nous avons menées, nous comprenons que l'affaire bloque, l'affaire n'évolue pas et ce que nous proposons dans le communiqué, ce sont des pistes, des solutions pour pouvoir permettre aux justiciables d'accéder à leurs droits.
Dans la province du Kassai Oriental, la paroisse catholique de Kabwe, à 18 km d'Mbujimayi, a été victime de vols des objets sacrés dans la nuit de samedi à dimanche. Cependant, le week-end dernier, l'évêque du diocèse d'Mbujimayi est monté au créneau pour dénoncer les vols à répétition dans plus d'une dizaine de paroisses catholiques depuis le mois d'avril dernier. Emmanuel Bernard Kassanda a demandé aux autorités provinciales et sécuritaires de s'impliquer pour aider l'Église à retrouver ses biens emportés. Ces derniers disent n'avoir jamais été saisis autour de cette information, des explications, Esther Ndalafina.
Au niveau de la police nationale congolaise, le commissaire provincial dit avoir appris cette information dans les réseaux sociaux. Roger Singa.
Je suis surpris d'apprendre cette nouvelle à travers les réseaux sociaux. Moi, je suis étonné de voir que l'Église catholique ne se soit pas plainte officiellement. Aucun rapport de mes services n'a fait état de cette situation-là. Nous allons rendre langue avec les responsables de l'Église catholique sur place pour en savoir un peu plus.
Même réaction au niveau de la province. Lazare Chipinda, ministre provincial de l'intérieur, déplore cette situation et promet de s'investir pour la récupération des biens emportés dans les paroisses.
Nous n'avons pas été touchés officiellement pour ça. Ce sont des choses que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse toucher à l'Église de Dieu. Donc si nous sommes saisis, je crois que nous allons marcher ensemble pour retrouver ceux qui sont en train de commettre ce genre de forfaiture.
C'est ainsi que l'Action contre l'impunité pour les droits humains s'indigne de ces actes et demande que justice soit faite. Maître Jimmy Bachile, coordonnateur.
Ce comportement-là est condamnable. Demandons que la justice soit simplifiée afin que ces personnes-là soient arrêtées.
Signalons que ces actes de vandalisme ne sont pas liés à la désignation par les confessions religieuses du futur candidat président de la centrale électorale. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, la ministre de la formation professionnelle est arrivée ce lundi matin à Bukavu. Antoinette Kipoulou vient donner le coup d'envoi sur toute l'étendue du pays ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État pour les filières des formations professionnelles. La cérémonie officielle a lieu au centre d'apprentissage Kapa dans la commune de Kadutu. C'est la première fois que ces épreuves hors session sont organisées de façon autonome par le ministère de la formation professionnelle. Reportage Cynthia Bachizi Navizana.
2500 élèves ayant étudié dans les sections techniques ou simplement des autodidactes vont affronter ces épreuves dans les 12 centres retenus au Sud Kivu. À Bukavu, 4 centres de passation sont enregistrés, notamment le centre Kapa. Magadjou Sibei, chef de programme et formation au centre Kapa, revient sur l'importance des filières techniques et professionnelles.
Et la formation professionnelle, c'est un moteur de développement qu'il faut encourager, qu'il faut appuyer, et donc le pays a besoin de ça. Et quelque part, on a connu un retard parce que on est arrivé à un niveau où le pays n'a fait que produire des gros diplômes universitaires. On a négligé la technique et cela a retardé l'aspect entrepreneurial des jeunes.
Ces épreuves hors session vont durer 5 jours. Les candidats seront interrogés en français et dans les 4 langues nationales. Ils auront le brevet d'aptitude professionnelle en cas de réussite. Avant la session du ministère de l'EPST, celui de la formation professionnelle, 3 ministères devaient certifier ces épreuves, notamment le ministère de l'EPST, le ministère de la Jeunesse et celui des Affaires sociales. L'organisation de ces épreuves par le seul ministère de la formation professionnelle permettra d'avoir une seule certification à l'échelle nationale. Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
À Mandunduville, le chef-lieu de la province du Kwilu, les enseignants des 4 écoles issues des 3 communautés, dont la 37e KDC, la communauté islamique et la 34e KADAF, montent au créneau pour exiger le transfert de leur salaire de la banque Ecobank à la Tembe. C'est là après avoir totalisé 2 mois d'impayement, dont le mois de juin et celui de juillet dernier. Ils dénoncent en même temps plusieurs irrégularités de la part de l'Ecobank. Ces enseignants en colère indiquent qu'ils ne vont pas travailler jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée à leurs problèmes. Irène Boma pour les détails.
Il s'agit de 64 enseignants des 4 écoles de Bandundu, à savoir l'Institut Molende et l'Épée Molende de la 37e KDC, l'Institut Sabiti de la communauté islamique et l'Institut Telema de la 34e KADAF. Impayés pendant 2 mois par la faute de la banque Ecobank, ils exigent de quitter cette banque pour la TMB.
Nous sommes venus déclarer non salaire des 2 mois que l'Ecobank n'a pas encore payé, le mois de juin et juillet. Quand nous appelons ce type de l'Ecobank, il nous dit l'argent perd en route, 2 mois pleins, la personne n'arrive pas. Nous demandons à nos autorités de nous changer l'adresse des banques, de l'Ecobank à la TMB ici à Bandundu. Pour l'école de l'intérieur, l'institut Telema, on leur transmet à l'Equity Bank parce que ici l'Ecobank n'existe pas.
Ces enseignants en colère promettent de ne plus travailler jusqu'à ce que la solution soit trouvée à leurs problèmes.
Nos enfants ont raté la dissertation, nous n'avons pas les moyens de payer de loyer. Nous ne sommes pas contents de ça. On a déjà enseigné 2 mois impayés. Ventre creux n'a point d'oreille. Nous n'irons plus à l'école jusqu'au jour où nous serons payés.
Nos efforts pour avoir la réaction de l'Ecobank à ces propos n'ont pas abouti. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, la grève sèche annoncée par l'intersyndicale de la santé dans le Grand Nord Kivu a été effectivement déclenchée ce lundi dans certaines structures sanitaires de Butembo. Selon les constats faits par Radio Okapi, dans certains hôpitaux, les infirmiers et autres professionnels de santé, en dehors de médecins, ont abandonné les malades et ne s'occupent que des urgences. Ces professionnels de santé disent suivre le mot d'ordre au niveau national. Ils réclament principalement leur alignement sur les primes de risque et salaire. Et grâce à Mzati, a visité quelques hôpitaux. Voici son reportage.
À l'hôpital Wanamaika, par exemple, les grévistes ont fait tomber leurs blouses et se sont regroupés dès le matin dans un coin. Ils renvoient les malades aux médecins et disent ne s'occuper uniquement que des urgences. Kassere Kameso est l'un d'eux.
Je suis debout maintenant, je ne suis pas même en blouse pour le moment parce que nous avons décidé, nous avons accepté de cesser toutes les activités dans la structure pour essayer de s'accommoder donc à cette grève qui est nationale. Quand on fait la grève, on ne reste pas à la maison, on doit rester là où on preste parce que nous sommes aussi ouverts à toute négociation. Il y a des malades que nous n'avons pas encore soignés, il y a les gens qui viennent pour la vaccination, il y a les gens qui viennent pour la CPN, il y a les gens qui viennent pour d'autres soins en ambulatoire. Nous ne voulons pas les recevoir, nous allons seulement recevoir les cas des urgences jusqu'à ce que le gouvernement réponde à nos revendications.
Sur les visages des malades, on peut constater l'angoisse quant à l'incertitude de ne pas recevoir des soins. La situation est quasiment la même à l'hôpital Sainte-Famille de Mukuna. Du côté de l'hôpital général de référence de Kitatumba, difficile de confirmer l'effectivité de cette grève sèche. Les infirmiers ont des avis divergents sur les sujets. Rappelons que la solidarité syndicale des infirmiers du Congo, Solsiko Butembo, n'a pas adhéré à cette décision de l'intersyndicale de la santé. Butembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Il est 13h12 à Imbokolo, à Ituri, où nous poursuivons ce journal pour parler d'environ 20 éléments de la milice Codeco qui ont été blessés et 3 autres capturés lors des opérations militaires lancées depuis le week-end dernier à Bambou et Kobu dans le territoire des Djati, en territoire des Djougou. Plusieurs forces vives du milieu saluent le professionnalisme de l'armée dans la traque de ces hors-la-loi. Les coordonnateurs de l'ONG Justice et Dignité pour tous indiquent qu'une perte énorme est infligée à l'ennemi. Il exhorte les autorités militaires à étendre ses opérations dans certains sites miniers que ces rebelles occupent dans la zone. L'armée, cependant, appelle ces brebis galeuses à revenir à la raison. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
C'est depuis le week-end dernier que le gouverneur des provinces a lancé la 3e phase des opérations de traque des miliciens dans les centres commerciaux de Kobu et Bambou, situés à plus ou moins 40 km de Bounia. Au cours de cette attaque, l'armée confirme la reconquête de ces centres de négoces ainsi que la récupération d'un lot important de munitions. Le bilan provisoire de ces opérations est de 21 assaillants blessés et 3 autres capturés. Le porte-parole des FARDC en Ituri appelle les miliciens à abandonner la voie de la violence, le lieutenant Jules Ngongo.
Aujourd'hui, ce centre est occupé par les forces armées et nous sommes à la phase de la consolidation. Cette phase sera plus violente, rapide et brutale jusqu'à ce que ces jeunes gens vont déposer les armes et se rendre aux forces armées.
De son côté, l'ONG Justice et Dignité pour tous salue la bravoure des forces loyalistes. Son coordonnateur espère que cette traque pourra mettre fin à l'activisme de ces miliciens qui ont trop longtemps terrorisé la population dans cette zone.
Il y a une perte. Les ennemis sont en débandade. Même les opérateurs, il y a aussi des infiltrés ici.
Signalons que des dégâts collatéraux de ces affrontements sont entre autres les déplacements massifs de la population ainsi que l'endommagement de certaines infrastructures. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, la question de la gestion transfrontalière de la pêche au lac Édouard entre la RDC et l'Ouganda est au cœur d'un atelier d'un jour ce lundi à Goma. Il est organisé par le projet de gestion intégrée des pêches des ressources en eau des lacs Édouard et Albert Eliaf 2. L'objectif est d'évaluer la première phase de ce projet qui a été lancé en 2018. Bernard Denyangui.
Le projet LIFD, initié par la RDC et l'Ouganda depuis la signature en octobre 2018 de leur accord bilatéral sur le renforcement des patrouilles mixtes au lac Édouard et Albert, vise à atténuer les menaces sur les ressources halieutiques des deux plans d'eau transfrontaliers. Le vice-gouverneur du Nord Kivu, qui supervise cet atelier d'évaluation, déplore la persistance de la dégradation, en particulier des ressources du lac Édouard, et estime que la deuxième phase de ce projet devrait atténuer la situation. Commissaire divisionnaire Romy Ekoukali Popo.
L'actualité de la pêche au lac Édouard reste dominée par des arrestations récurrentes de pêcheurs congolais, la prédation des inciviques Maïmaï. Je suis donc heureux de prendre ces assises pour évaluer la réglementation de la pêche et la sécurité du lac Édouard et réfléchir sur les activités de la deuxième phase des patrouilles mixtes.
Le comité des pêcheurs déplore qu'à ce jour, au moins 126 pêcheurs congolais du lac Édouard soient toujours en détention en Ouganda pour violation présumée des frontières. Ils plaident en faveur d'une implication du gouvernement congolais dans la restauration de l'autorité de l'État sur ce lac, qui reste sous l'emprise, selon eux, des Maïmaï et d'autres policiers véreux. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Au Niger, au moins 35 personnes sont mortes, noyées ou tuées dans l'effondrement de leur maison et plus de 26 000 autres sont sinistrées, leur logement ayant été détruit ou endommagé selon la protection civile nigérienne. En raison des fortes pluies qui frappent le pays depuis le début du mois de juin, les régions des Maradi, Agadez ainsi que la capitale Niamey sont les plus touchées ces dernières semaines. Le bilan des inondations du 20 juillet dans le centre de la Chine a été brutalement revu à la hausse ce lundi 2 août. Les autorités locales faisant désormais état de 302 morts et 50 disparus. Les précipitations qui s'étaient abattues sur la métropole de Zhengzhou, capitale de la province très peuplée du Henan, avaient englouti une rame de métro, un tunnel routier, emportant des dizaines d'automobiles. Le précédent bilan pour l'ensemble de la province faisait état d'une centaine de morts.
L'invité.
C'est Samba Kayabala Moni, gouverneur intérimaire de la Tanganyika. Il évoque les différents points qui touchent à la vie de la province. Il aborde également la question de la gestion de la province après la déchéance des Zoé Kabila. Samba Kayabala Moni répond aux questions de François-Xavier Mibé.
Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le gouverneur, vous venez de vous adresser à la population de Kalemie, mais contrairement à vos prédécesseurs, vous êtes presque le premier gouverneur qui s'adresse à la population dans un meeting. Quelle est l'image que vous vous faites de la population de Kalemie?
Je fréquente cette population depuis plus de 15 ans. C'est une population qui a soif de bien-être, soif d'évolution et soif de pouvoir jouir de ses ressources et en avoir ne fût-ce qu'un minimum de contrôle. Mais en contrepartie, ce n'est pas une population qui est fainéante ou attentiste. Elle n'attend qu'une seule chose, contribuer à l'évolution et au bien-être de leur province.
Et quel est le message que vous avez bien voulu passer à cette occasion, monsieur le gouverneur?
Oui, le message que j'ai dû transmettre au cours de ma première adresse, c'était une communication à la population. Quel était le devoir de l'autorité principale et administrative de la province qui est le gouverneur, ainsi que son gouvernement? Quelles étaient les instructions qui ont été reçues au niveau national par le chef de l'État, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, au niveau national, afin que cette population puisse se retrouver et avoir un bien-être, que la sécurité puisse être visible sur toute l'étendue de la province et de ses différents territoires, les institutions de la province ainsi que la population puissent vivre dans l'unité.
Entre-temps, monsieur le gouverneur, l'activisme de groupe Maïmaï, avec leurs multiples nominations, ne dessert toujours pas son étau sur les principaux axes. L'axe Bendera est le plus éloquent. Le nombre d'incursions sur les sites miniers reste récurrent, mais comment entendez-vous mettre un terme à cette insécurité toujours grandissante en province du Tanganyika, monsieur le gouverneur?
C'est de faire le travail qu'on a toujours fait. Les efforts qui seront mis en œuvre entre le gouvernement provincial, l'assemblée provinciale, ainsi que les services de sécurité, entre autres la police, l'armée, accompagnés avec les ONG internationales ou la MONUSCO, puissent ensemble en symbiose que cette menace et ce danger puissent se terminer par les différentes méthodes qui s'imposent, le dialogue ou autre, tout dépend de l'intensité de la menace. Nous y travaillons et la situation a sensiblement diminué et d'ici cette fin d'année, année prochaine, elle aura aussi sensiblement augmenté, toujours dans le positif.
Tout en restant sur le même chapitre, le général autoproclamé Mondous multiplie des contacts avec des partenaires impliqués dans la recherche de la paix pour obtenir sa réduction. Mais Mondous pose des préalables, entre autres, que le gouvernement que vous représentez reconnaisse son grade. À ces préalables, il y a aussi la construction des écoles dans des milieux à prédominance de la communauté Toa. Votre réaction à ce sujet, monsieur le gouverneur?
Oh, ma réaction par rapport à tout cela, que ce soit Mondous ou quelconque autre personnage qui se retrouverait dans les mêmes qualificatifs que celui-là, notre devoir en tant qu'autorité provinciale est lié à Kalmi. Les stratégies utilisées par rapport au fait que tout cela doit s'arrêter sont déjà dictées au niveau national par le commandant suprême. Nous, en tant que province, nous ne faisons qu'appliquer et apporter certains éléments qui prouvent la réalité du terrain. Donc jusque-là, on ne peut que s'arrêter là, étant donné que ce sont des opérations qui dépendent du Conseil de sécurité, de la sécurité de l'État. Nous ne savons pas en parler plus longuement sur les chaînes.
Quatre enfants sont morts à Kayobwe, dans les territoires de Moba, après avoir manipulé un engin non explosé. À Kabalo, dans le village de Kabumba, 75 bombes ont été découvertes par les habitants fabriquant des briques. Est-ce comprendre que les opérations de déminage par l'entremise des ONG spécialisées et partenaires du gouvernement provincial ont pris fin au Tanganyika?
Non, chaque chose est en train de suivre son cours. Et ces opérations-là ne sont pas encore terminées. Nous sommes dans ce processus-là. Si il y a pu avoir un ralentissement, donc je ne parle pas d'arrêt. Il ne faut pas oublier que nous avons eu la pandémie du Covid-19 qui a ralenti tout le monde en termes de déplacements et autres dans la province du Tanganyika. Ça, ce sont des restes qui ont été découverts. On s'est arrangé pour qu'ils soient mis hors d'état de nuire et que nous n'avons rien à craindre par rapport à cela.
C'est le gouverneur. Merci.
Merci beaucoup.
Ce journal a été coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Martin Sebujangwe, Jean-Noël Mokondo ou la mise en onde. Quant à moi, Pierrot, je vous retrouve tout à l'heure à 13h de Kinshasa, mais l'ensemble de nos informations sont sur www.radiocapi.net.